professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec PharmaManager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire accompagné de sa base de données fine, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur Nutri Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Nutractu, l'émission de radio consacrée à la nutraceutique et son environnement. On est ravis d'accueillir comme chaque mois, j'ai envie de dire comme chaque mois, mais il n'était pas là le mois dernier. Il était parti dans une profondeur d'enquête là qui va vous révéler dans un instant. C'est évidemment le CEO de Expansion Consulting, Pascal Lebras. Bonjour Pascal.
Bonjour Fabrice.
Ah, vous nous avez manqué, où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Oh. Mais en effet, c'est tout à fait ça. J'étais plongé avec notre équipe data dans les résultats d'études. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu une petite absence.
Voilà, parfois, mais vaut mieux qui veut voyager loin ménage sa monture. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir.
Qui va piano va sano.
Qui va piano va sano. Bon, alors vous le savez, hein, chaque mois en partenariat avec Expansion Consulting, il y a une étude spécifique pour Nutri Radio. Et aujourd'hui, comme vous êtes, il y a quand même beaucoup de laboratoires de compléments alimentaires qui nous écoutent. Si vous êtes consommateur, restez là parce que ça va vous intéresser également. Voilà, pour savoir sur la consommation des produits nutraceutiques, les études cliniques, les études qui vont attester de l'efficacité d'un produit, qui vont rassurer le consommateur. On sait que c'est une grosse tendance, ces études et ces tests. Et donc, vous avez voulu et vous avez décrypté plutôt comment les consommateurs perçoivent les tests d'efficacité, cher Pascal.
Oui, c'est ça. On a regardé les consommateurs de compléments alimentaires et on leur a demandé de répondre à des questions liées aux tests d'efficacité en regardant les tests, ce qu'on appelle les tests en vie réelle, et les tests, les études cliniques. Donc, on a fait cette étude sur 640 personnes. 50% hommes, 50% femmes, avec quatre tranches d'âge équilibrées entre 18 et 70 ans, habitant à Paris et également, enfin Paris, banlieue parisienne et province, et avec une répartition équilibrée des activités professionnelles, ce qu'on appelle les CSP.
Alors, que révèle cette étude? Quelles sont les préoccupations en matière de santé déjà c'était la première question de cette étude.
Absolument. Alors, on a posé la question uniquement à des consommateurs de compléments alimentaires. 50% consomment régulièrement et 50% ont une consommation occasionnelle. Et justement, sur cette question, quelles sont vos préoccupations de santé? Là, les laboratoires ne seront pas étonnés. Une des premières préoccupations, c'est les problèmes de digestion. En deuxième, le stress. En troisième, les troubles du sommeil, qui sont d'ailleurs souvent liés avec le stress. En quatrième, les douleurs articulaires. Ça, c'est le top 4 des inconforts et des préoccupations citées par les consommateurs et les répondants dans cette étude, avec une répartition assez logique entre les différentes tranches d'âge, les sexes, hein, puisque les femmes ont des préoccupations qui peuvent être un peu différentes des hommes, et également des préoccupations qui peuvent être différentes entre des consommateurs réguliers et des consommateurs occasionnels. Un point, ils ont déclaré, ces répondants, en moyenne 8 préoccupations de santé sur cette étude.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on déroule un petit peu les réponses entre les problèmes de stress, 48%, troubles du sommeil, 46%, et si on descend un tout petit peu plus, troubles de l'humeur, du moral, 25%, on voit quand même que cette santé mentale, elle est bien présente dans les préoccupations des Français.
Absolument, on le voit aussi sur les troubles de la mémoire, la fatigue cognitive qui est à près de 20%. Donc, vous voyez, les troubles de l'humeur, c'est 25%. Donc, il y a une vraie problématique sur le moral, l'irritabilité et les problèmes cognitifs.
Alors, consommez-vous des produits d'automédication? Question très intéressante parce qu'on sait que, a priori, il y en a beaucoup qui le font.
Absolument. Alors, on a écarté dans cette étude, puisque le design de cette étude, c'était justement de s'intéresser aux consommateurs et de regarder leur avis sur les études d'efficacité. Dans cette étude, nous avons 20% des répondants qui indiquent qu'ils consomment très souvent, donc plus de 6 fois par an. Souvent, c'est 3 à 6 fois par an pour 30%, et rarement, 1 à 2 fois par an, c'est 50%. On a là aussi un certain équilibre entre les hommes et les femmes. Ce que l'on voit sur les tranches d'âge, eh bien, on a là aussi un équilibre. Les 26-39 ans sont 31% à indiquer oui très souvent. Les plus âgés sont un peu moins nombreux.
Alors, on rappelle que l'automédication, c'est le fait de se soigner soi-même en utilisant des remèdes ou des traitements sans avoir consulté un professionnel de santé. Est-ce que ça comprend aussi des médicaments qu'on peut avoir qui traînent dans les... C'est que des compléments alimentaires ou ça peut être des médicaments qui traînent dans les armoires ou que notre pote ou notre cousin va nous donner ?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est vraiment une bataille d'experts. C'est-à-dire que les laboratoires, bien évidemment, vont faire une segmentation réglementaire, on va dire, des produits, des statuts réglementaires. Les consommateurs le font pas tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont, ils peuvent confondre un produit OTC avec une AMM dont ils ont accès au comptoir du pharmacien et un complément alimentaire.
On marque une toute petite pause et on va revenir dans le détail de cette étude. Les tests d'efficacité, les études cliniques, est-ce que cela compte pour les consommateurs dans le processus de décision d'achat du complément alimentaire ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer de tout cela ? C'est dans un instant sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Nutractu sur Nutri Radio.
Les tests d'efficacité produits, les études cliniques, ceux qui vont attester de l'efficacité d'un produit, est-ce que c'est important ? Bon, pas vous qui allez me dire le contraire, Pascal, évidemment, en sachant que c'est une grosse tendance générale, car il y a de plus en plus d'ailleurs de produits sur le marché. Comment les distinguer ? Comment faire en sorte de prendre un produit qui nous fait du bien ? On parle de nutraceutique particulièrement, donc avec un test d'efficacité, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Moi, personnellement, je sais que je ne prends pas un complément alimentaire si je ne suis pas sûr qu'il a été testé ou il n'y a pas quelque chose qui me dit que c'est bon. Alors, on va continuer à dérouler cette étude, parce que si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs, on rentre dans le vif du sujet avec la question suivante, étude spécifique et spéciale pour Nutri Radio, que l'on vous mettra d'ailleurs dans le détail en podcast, sur nutriradio.fr, juste dans le podcast, on vous mettra le détail de cette étude signée Expansion Consult Team. Alors, lorsque vous achetez un complément alimentaire, quel niveau d'importance accordez-vous aux preuves d'efficacité qui sont indiquées par le laboratoire ? Exemple, étude clinique ou étude consommateur, etc.
Alors, en effet, à cette question, on a un résultat qui est assez fort puisque on a 92% des répondants qui vont indiquer que les études, que ce soit études cliniques ou études consommateurs, donc les preuves d'efficacité sont soit très importantes, soit plutôt importantes. Ça, c'est un premier indicateur important parce que ça montre que c'est quand même une clé de réassurance pour les consommateurs et quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, que ce soit des consommateurs réguliers ou occasionnels, et quel que soit leur lieu d'achat, eh bien, les répondants indiquent tous que c'est important pour eux. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que sur le web, que ce soit le web, un web généraliste ou un web santé, ou le web d'un laboratoire, eh bien, c'est quasiment entre 80 et 100% des répondants qui ont indiqué que c'était important. Quand le produit est vendu en pharmacie ou parapharmacie, c'est légèrement moins important, aussi parce que le pharmacien est là pour participer à la réassurance au moment du choix produit.
Alors, pourquoi c'est important ?
Alors, plusieurs réponses possibles. On a posé la question aux répondants. Pourquoi est-ce que les preuves d'efficacité sont importantes pour vous ? La première réponse, c'est efficacité et résultat prouvé. S'il n'y a pas de preuve d'efficacité, pourquoi j'achèterais un produit qui ne servirait à rien ? Ça, c'est ce que disent les répondants. Le deuxième point, c'est la confiance et la réassurance. Je veux être rassuré quant aux performances des produits. Ensuite, c'est l'image de marque et le sérieux du laboratoire qui est cité pour 15% des répondants. Si le laboratoire fait des tests, c'est qu'il est sérieux et c'est donc une priorité pour moi. Et puis, cité à 7%, l'importance des expériences et des avis consommateurs. Au final, c'est une aide à la décision.
Alors maintenant, Je vous le disais en introduction, il y a plusieurs types d'études. Les études cliniques étant notamment celles les plus recherchées, enfin je pense, après vous me corrigerez, mais les études cliniques étant celles qui prennent le plus de temps et les plus recherchées, il y a aussi les études consommateurs en vie réelle, là qui donnent aussi de précieux indices hein, sur la qualité, l'efficacité et l'action des produits. Quelles sont les perceptions des consommateurs entre ces... Est-ce que déjà le consommateur fait la différence? Comment il perçoit une étude consommateur en vie réelle par rapport à une étude clinique?
Alors, on a posé la question donc à ces répondants. Selon vous, quelle preuve d'efficacité est la plus fiable? Soit l'étude consommateur en vie réelle, soit l'étude clinique. Alors, ça peut paraître étonnant, mais les répondants ont indiqué à 67% qu'ils trouvaient plus fiable l'étude consommateur, donc en vie réelle, plutôt que l'étude clinique. Alors, bien évidemment, là, on a opposé les deux dans la question, puisque c'était soit l'un, soit l'autre. Les répondants ne pouvaient pas répondre les deux. Donc, ils ont plutôt opté pour l'étude consommateur en vie réelle. Il y a une explication à cela hein, qui est assez simple, c'est que l'étude clinique, c'est une approche distanciée pour eux, c'est-à-dire que ce sont des protocoles qui pour eux sont pas très connus et qui peuvent même provoquer de la méfiance. Les répondants nous indiquent que ce sont des tests en laboratoire sur des cellules souches et finalement, c'est pas très près de moi. Hein, c'est pas très proche de ce que je vis, alors que l'étude consommateur, c'est ce qu'on appelle en marketing la stratégie du moi-même, l'étude consommateur en vie réelle fonctionne pour des personnes qui me ressemblent, qui ont les mêmes préoccupations que moi, et donc ça doit aussi correspondre à ce que je suis, et donc c'est pertinent, et en tout cas c'est fiable.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pascal?
Bah, écoutez, ça, Fabrice, c'est quelque chose que c'est un indicateur qu'on retrouve souvent nous dans les études en vie réelle ou les études consommateurs que l'on peut faire, c'est qu'il y a une distance du consommateur vis-à-vis des études cliniques. Ce que on pense, c'est qu'il ne faut pas les opposer. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. L'idéal, c'est quand un laboratoire peut faire et une étude clinique et une étude consommateur.
En sachant que toutes ces études, évidemment, sont gratuites.
On marque une... Je vous remercie, Fabrice.
On marque une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission.
Nutractu sur Nutri Radio.
Avec Pascal Lebras, le CEO d'Expansion Consulting, pour décrypter une enquête spéciale et exclusive pour Nutri Radio qui concerne les preuves d'efficacité. Quelle importance accorde le consommateur à ces preuves d'efficacité? On a vu que le consommateur était assez sensible aux tests consommateurs en vie réelle, plutôt même qu'à une étude clinique. Mais on retient que les deux sont importants aujourd'hui. Quasiment indispensable d'avoir une preuve d'efficacité. Et vous avez continué d'ailleurs cette étude en demandant est-ce que vous, chers consommateurs, est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher un complément alimentaire qui a des preuves d'efficacité?
Voilà, c'est une des questions que nous avons posées. Êtes-vous prêt à payer plus cher un complément alimentaire qui a des preuves d'efficacité? Ben finalement, c'est entre les deux. Hein. C'est ni oui ni non. Oui pour 55% des répondants, parce que c'est un avantage qui peut justifier un prix plus élevé. Et donc, les répondants indiquent que les laboratoires peuvent en effet proposer un produit qui a un test d'efficacité avec un prix un petit peu plus élevé. Et pour 45% des répondants, non. Ils indiquent même que c'est normal qu'un laboratoire fasse des études pour prouver l'efficacité de son produit sans augmenter son prix. En clair, pour 45% des répondants, c'est un passage obligé. Et pour 55% des répondants, c'est un avantage qui peut justifier un prix plus élevé. On a une répartition équilibrée, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu d'achat ou que ce soit des consommateurs réguliers ou occasionnels.
Ah, c'est intéressant, mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les deux raisonnements se comprennent.
Absolument. Absolument.
Bon, je dis ça comme ça, je ne m'attendais pas à une réponse aussi courte de votre part, mais moi-même, je me disais, mais oui, est-ce que... En fait, je me suis fait la réflexion. Effectivement, ça paraît logique que le laboratoire, il inclut ça, on va dire, dans le prix dès le départ et que enfin, l'étude fasse partie directement, avant de lancer un produit, on vérifie son efficacité. Mais par ailleurs, quand on sait le coût que cela entraîne et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai qu'on peut aussi se dire, c'est normal qu'il répercute le prix sur le produit de ces études cliniques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pascal?
Oui, tout à fait. En fait, le répondant indique oui ou non en fonction d'une comparaison, finalement, avec un marché ou avec d'autres offres de compléments alimentaires. Et c'est à partir de cette comparaison qu'il va soit considérer qu'en effet, c'est justifié, soit que c'est pas justifié, tout simplement parce que c'est un passage obligé.
Parce que sur un médicament, forcément un médicament qui arrive sur le marché, lui il a des études cliniques, son efficacité a déjà été testée et le prix il est fixé. Est-ce que c'est pas à peu près la même logique qu'on devrait avoir sur le complément alimentaire ? Un complément alimentaire égale preuve d'efficacité avant d'arriver sur le marché.
En toute logique, oui, c'est normalement le niveau d'exigence que devraient avoir et que doivent avoir les consommateurs et donc les laboratoires quand ils mettent un produit sur le marché.
Alors, est-ce que selon vous, pour quelle indication une preuve d'efficacité est-elle obligatoire justement ?
Alors là, les répondants sont très clairs. Tout d'abord, c'est toutes les sphères thérapeutiques sont concernées par les preuves d'efficacité. Près de 40% des répondants indiquent que les preuves d'efficacité sont obligatoires pour toutes les sphères thérapeutiques. Ensuite, ils vont relier leurs réponses directement avec leurs préoccupations. C'est-à-dire qu'on va retrouver en premier les troubles du sommeil, en deuxième la digestion, en troisième les maux de tête. Et puis après, il y a ce qu'on va appeler des aires thérapeutiques un petit peu plus lourdes, un peu plus techniques, comme la santé ophtalmologique. Ça, c'est un élément, c'est une aire importante sur lequel les répondants considèrent qu'il doit y avoir des preuves d'efficacité. Et après, on va retrouver toutes les aires thérapeutiques déjà cités précédemment dans leurs préoccupations. On n'a là aussi pas d'écart entre les sexes, les âges et les types de consommation, que ce soit une consommation régulière ou une consommation occasionnelle.
Alors ce qui est intéressant, intrigant, c'est que par exemple sur une catégorie comme le confort féminin, c'est que 7% qui jugent que les preuves d'efficacité sont obligatoires.
Oui, absolument, parce qu'il y a aussi des ingrédients qu'on va appeler des ingrédients clem, qui sont déjà très connus par les femmes notamment. Je pense par exemple à la cranberry pour les problèmes urinaires, qui font qu'il y a déjà, j'irais pratiquement dans l'inconscient collectif des femmes, des preuves d'efficacité qui sont reliées à l'ingrédient. Et donc, il y a moins de nécessité peut-être sur certaines sphères thérapeutiques.
Et par contre, en ce qui concerne ces preuves d'efficacité, tout le monde pense que ça doit concerner tout le monde, pas spécifiquement plus les femmes que les hommes, que les seniors ou les enfants.
Absolument, on leur a posé la question, est-ce qu'il y a un ou des profils pour lesquels une preuve d'efficacité est obligatoire ? 81% des répondants, je dirais quasiment à l'unanimité, indiquent c'est pour tous, pour tous les profils de consommateurs. Après, en deuxième, on va avoir les personnes qui sont des personnes sensibles ou fragiles, donc personnes malades, les seniors, les enfants, les adolescents, etc. Mais dans l'esprit des répondants, les preuves d'efficacité, c'est obligatoire pour toutes les cibles.
Et alors, une fois qu'on a ces preuves d'efficacité, vous faites une étude clinique, elle est bonne, vous faites un test de consommateur en vie réelle, il est très bon. Où devez-vous communiquer cette information ?
Prioritairement, les répondants nous indiquent sur le packaging du produit. Tout simplement parce que c'est une aide à l'achat. Ça permet de faire des comparaisons devant un linéaire et donc de comparer les produits. Donc c'est prioritairement sur le packaging du produit. En deuxième, c'est sur le site web du laboratoire. Donc packaging produit cité à 65%, site web du laboratoire cité à 56%. Ça c'est le top 2 des réponses. Et ensuite, publicité sur le lieu de vente 30%, les réseaux sociaux 18% et de façon un peu plus marginale, la publicité presse, TV, etc. Là aussi, on a un alignement, même si les femmes sont un petit peu plus nombreuses à citer le packaging produit, les hommes, le site web du laboratoire, mais globalement, on a les mêmes profils de réponses pour tous les répondants.
Et alors, vous savez, il y a toujours ces petits, parfois, un pourcentage de consommateurs satisfaits sur les packagings. Est-ce que ça, c'est important de le mettre ?
Alors oui, c'est important, c'est une notion, la notion de satisfaction est reliée directement pour les répondants à la notion d'efficacité. Si des consommateurs qui ont testé le produit sont satisfaits, ça veut dire qu'a priori, le produit est efficace. Donc 78% des répondants ont indiqué que les pourcentages de satisfaction étaient soit très pertinents, soit plutôt pertinents. Là aussi, alignement entre les hommes et les femmes. Répondants qui achètent sur les sites web sont un peu plus nombreux à indiquer la pertinence des pourcentages de consommateurs satisfaits.
Mais alors, parce que c'est à double tranchant, imaginons qu'il y ait 57% de consommateurs satisfaits. Bon, moi je suis consommateur, je me dis ouais, c'est peut-être pas moi.
Oui, alors tout à fait. Nous, de notre expérience, hein, ce que l'on voit, c'est que un pourcentage de consommateurs satisfaits, c'est à minima 75%. Si le laboratoire a un niveau de satisfaction de consommateurs dans son étude en dessous de 75%, alors peut-être vaut-il mieux ne pas le mettre et se reposer des questions sur l'efficacité.
Et en ce qui concerne les indications qui indiquent les consommateurs qui recommandent un produit, c'est aussi c'est important ?
Alors, c'est important, ça l'est un peu moins. Hein, on est à 66% en termes de pertinence du pourcentage de consommateurs qui recommandent le produit, entre très pertinent et plutôt pertinent, 66%. C'est particulièrement pertinent pour les répondants qui achètent en magasin diététique, en pharmacie et en parapharmacie. On a aussi une réponse un petit peu plus élevée pour les hommes. On a un pourcentage d'hommes plus important qui considère que l'indication du pourcentage de consommateurs qui recommandent le produit est pertinent.
Enfin, les témoignages de consommateurs qui décrivent leur expérience donc sur le produit sont-ils importants, ces témoignages ?
Eh oui, ils sont encore plus importants. Les verbatim consommateurs, qu'ils soient sur une publicité ou qu'ils soient sur un site web, sont très importants. 90% des répondants ont indiqué que les témoignages des consommateurs étaient soit très importants, soit plutôt importants. Et là, c'est pour tous les mêmes résultats. Ça veut dire que c'est pertinent et c'est intéressant pour les laboratoires de le faire. D'ailleurs, les études, notamment les études en vie réelle, permettent de récolter des verbatim consommateurs qui peuvent être directement indiqués sur un site web ou sur une communication, puisque c'est relié à une étude en vie réelle.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Lebras. Je vais vous laisser peut-être faire une petite synthèse de ce qui vient de se dire, une synthèse de cette étude pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre.
Alors, en deux, trois points, hein, nous, ce que l'on voit, c'est que les laboratoires ne doivent pas opposer l'étude en vie réelle et l'étude clinique. Ce sont deux critères, selon nous, qui sont des critères clés de réassurance du consommateur. On a vu aussi que toutes les cibles consommateurs sont, selon les répondants, attentives aux résultats d'efficacité, et c'est sur toutes les sphères. Même si certaines sphères sont un peu en deçà de la moyenne, toutes les sphères thérapeutiques achetées sont concernées, selon les répondants, par des études en vie réelle ou des études cliniques. Et ça peut, en tout cas pour un répondant sur deux, être un levier pour augmenter le prix, ou en tout cas pour justifier d'un prix un peu plus élevé. C'est donc une vraie clé, hein, les études en vie réelle ou les études cliniques. C'est une vraie clé, c'est un vrai driver de réassurance et aussi de différence qu'un laboratoire peut faire versus concurrent.
Alors vous, chez Expansion Consulting, c'est aussi votre spécialité, hein, la réalisation de ces études en vie réelle, ces études consommateurs. Est-ce que vous en faites plus qu'avant ? Parce que on voit qu'il y a de plus en plus besoin de ces preuves d'efficacité. Est-ce que c'est une tendance aussi que vous notez chez vos clients ? Est-ce que vous devez argumenter plus ? La prospection, elle est plus entrante maintenant, plus sortante ?
Alors, si je dois répondre très sincèrement, elle est totalement entrante. Hein, et on voit sur les 10 dernières années une croissance exponentielle des études en vie réelle. On est très fortement sollicité, et pas seulement en France. Hein. On le voit, c'est dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis, les laboratoires testent les produits, notamment avec des études en vie réelle qui sont un peu plus rapides, aussi un peu moins coûteuses qu'une étude clinique. Donc c'est une vraie tendance et ça devient aujourd'hui presque une norme.
Et comment vous organisez, alors, par exemple, un laboratoire ? Imaginons que je suis un laboratoire, je sors un produit, je ne sais pas moi, chlorophylle, que j'appelle chlorophylle, je ne sais pas. Bon, je vous distribue le produit. Comment ça se passe ? Je vous donne le produit, je vous l'envoie, c'est vous qui le distribuez aux consommateurs, ils sont suivis, comment ça se passe ?
Alors, il faut savoir que les études en vie réelle sont quasi les mêmes protocoles que les études cliniques, si ce n'est qu'il n'y a pas de demande d'autorisation et de dépôt à faire préalablement au niveau réglementaire. Après, on est sur le même protocole qu'une étude clinique, avec, on va dire, un full service chez Expansion, puisque nous gérons l'étude de A à Z, que ce soit sur la gestion d'envoi des produits de façon anonyme, hein, pour le laboratoire auprès des consommateurs, que le screener de recrutement, la rédaction des questionnaires et bien sûr l'analyse des datas et le délivrable d'études.
Et ça se fait sur combien de personnes à peu près ? 600 personnes ?
Alors, à minima, c'est 50 personnes pour un bras d'études. Si vous faites un bras d'études avec un placebo, alors c'est 50 et 50. C'est un minimum. Ce que l'on voit en moyenne, hein, c'est que sur un bras d'études, c'est 100 personnes pour que ce soit des datas qui soient suffisamment robustes et que l'on puisse faire un certain nombre d'analyses croisées et de sous-ciblage.
D'accord. 100, avec 50-50, placebo et produit ?
C'est le minimum. D'accord. C'est vraiment le minimum.
Donc, le labo vous envoie ses produits. Vous, vous envoyez ça à des consommateurs, mais sans la marque du produit. C'est ça, hein ?
Absolument, tout
suivi,
à fait.
Il y a un suivi, d'accord, très, très intéressant. Merci beaucoup. Je vous envoie un produit à base de chlorophylle.
Très bien, on s'y met tout de suite.
Bon, allez, merci beaucoup. Cette étude exclusive pour Nutri Radio, vous la retrouvez tout de suite sur le site Nutri Radio, dans la partie médias et podcast. Elle est dans la description du podcast, qui est d'ailleurs disponible aussi dès maintenant. Là, les choses sont bien faites. À l'issue de cette émission, boum, vous pouvez la réécouter dans son intégralité sans interruption. Merci beaucoup, Pascal. On va se retrouver le mois prochain, j'espère. Enfin, dès qu'il y a une nouvelle étude, vous intervenez.
Merci Fabrice, à bientôt, à très bientôt.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, restez avec nous.
Nutractu sur Nutri Radio.